Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre, Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 3.
Les anges. Eh bien oui, la planète ne s'appelle pas Los Angeles pour rien. Ça a été la malchance pour cette planète d'être la seule habitable de ce système solaire, lequel système solaire est le seul à être à peu près à la croisée des chemins. Du coup, les compagnies ont décidé d'en faire une planète entrepôt. Ils n'avaient pas trop le choix. C'était le plus simple, sinon il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Oh, à l'époque, ça n'avait pas été simple. Seulement, depuis toujours, le pouvoir de l'argent a toujours emporté sur le reste. Le Human Survival Institute s'est pourtant battu, mais, après tout, il n'était pas là pour défendre une quelconque vie extraterrestre. Il était simplement là pour défendre la vie humaine qui se dispersait un peu partout dans l'espace, à travers la galaxie. Et donc, finalement, on avait bien ravagé cette planète, malheureusement. Car les premiers qui l'avaient trouvé, un peu par hasard, avaient ramené la légende qui avait donné le nom à la planète, Los Angeles. Et quelques siècles, les lamantins qui reposaient dans les eaux chaudes en Amazonie, sur l'ancienne Terre, avaient souvent été pris pour ce que l'on appelait les sirènes à l'époque. Un moyen de faire le lien entre un animal de légende et un animal qui existait et qu'on pouvait voir tous les jours. Sur Los Angeles, c'était la même chose, sauf que là il ne s'agissait pas de lamantins. Les premiers hommes qui avaient débarqué en avaient été terriblement choqués. Effectivement, il y avait bien des anges. Ils avaient des ailes, ils volaient, et c'était des créatures plus ou moins humanoïdes. Oh, clairement animal, pas d'intelligence. Sans doute le plus gros animal de la planète. Assez bizarrement d'ailleurs, la planète n'avait que de petits vertébrés, puis les anges, et rien. On n'en savait pas grand-chose. Étaient-ils omnivores, carnivores? Est-ce qu'ils étaient au sommet de la pyramide alimentaire? Qu'est-ce qui justifiait effectivement une forme de vie de cette taille? Puis plus rien dans les niches écologiques en dessous, jusqu'à ce qu'on arrive à des espèces de rats ou des choses de cette taille-là. En tout cas, peu importait, on n'était pas là pour faire de la zoologie. Et donc, on avait commencé à installer un peu partout sur la planète les entrepôts, forcément aux endroits où ils vivaient, c'est-à-dire dans les vallées, dans les forêts, à l'endroit où la Terre était à peu près plate, pas dans les hauteurs, pas dans les montagnes, potentiellement dans les déserts arides, là on n'en creusait pas, mais au bord des mers ou dans les grandes plaines. Et ça avait été un massacre. Et encore aujourd'hui, régulièrement, avec les allées et venues des vaisseaux spatiaux, les quelques-uns qui avaient survécu et qui s'étaient retranchés à l'endroit où il n'y avait pas d'entrepôt, croisaient malheureusement un vaisseau et étaient déchiquetés. On ne comptait même plus le nombre de morts. De temps en temps, des pilotes peu habitués, je parle des pilotes évidemment qui étaient dans les vaisseaux en altitude, car les vaisseaux transporteurs entre les vaisseaux d'altitude et la Terre n'avaient pas de pilotes humains à bord. Ceux qui n'avaient pas l'habitude faisaient remarquer qu'ils avaient vu effectivement une forme sur leurs écrans. Les autres, blasés, finissait par ne plus compter. J'ai eu la chance, la malchance pour certains, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire la chance, de ne pas en voir, enfin je veux dire, de près, car les seuls qu'on voit de près sont les cadavres déchiquetés. De temps en temps, au loin, au coucher ou au lever du soleil, on voyait des formes monter dans le ciel. Voilà tout ce que j'ai pu en voir. Los Angeles, les anges. Tout ça, ce sont mes deux comparses qui me l'ont raconté. Pas évidemment le responsable qui était parti après avoir vérifié que j'étais bien installé. Mes deux comparses le sont restés 3 jours. Après, ils me regardaient bizarrement. Le poissard. Fut finir par croire qu'ils avaient raison. Statistiquement, ça n'était jamais arrivé. J'étais installé depuis 3 jours, une énorme météorite qui tombe sur le D-177. Mon baptême du feu. Derrière, je me suis pas trop fait taper sur les doigts. Je venais d'arriver, je connaissais pas trop les procédures. Il a fallu pratiquement une journée pour dégager et réparer les dégâts. L'impact commercial était important. Mais bon, je venais d'arriver, tout le monde espérait que ma motivation ferait que je resterais au moins 3 ans. En haut lieu, on a passé l'éponge. Par contre, mes deux logisticiens, eux, n'avaient plus envie de rester avec moi. Pourtant, pendant ces 3 années, ça ne s'est pas reproduit. Enfin, je veux dire, pas plus que ça. Il n'y a pas eu de catastrophe, plus souvent qu'ailleurs, plus souvent qu'avec les autres. Que ça soit des météorites, oui, effectivement, en moyenne une par mois. La plus grosse d'ailleurs, celle qui avait marqué mon 3e jour. Ça n'est jamais arrivé avec de tels dégâts plus tard. Des containers vivants, comme on les appelait? Oui, 2 fois, détectés suffisamment en amont, sans problème. Des grignoteurs? Eh bien ma foi, comme on avait pu me l'expliquer, ça a fait mon actualité toutes les semaines. Je n'en ai jamais eu un. Par contre, le nombre de rapports, d'inspections et d'interrogatoires sur le sujet, je ne les compte plus. Enfin voilà, le premier, persuadé que je portais malheur, a demandé à partir avant la fin de son contrat. On m'en a un tout petit peu voulu, mais après tout, il n'était pas motivé, il serait pas resté jusqu'au bout. Ça lui a coûté cher. Le problème, c'est que les deux ne sont pas partis en même temps, et que donc le nouveau a pu écouter toutes les histoires idiotes que celui qui était resté a pu lui raconter. Et du coup, lui aussi, me regardait de travers. Lui-même, l'ayant d'ailleurs raconté à celui qui était resté mais pas bien longtemps, se retrouvant seul avec un nouveau et avec un poissard, il profita de la fin d'un contrat d'un de ses collègues, ailleurs, au F-127, pour changer de poste. Et je me suis donc retrouvé avec de nouveau eux-mêmes le crâne farci par ces bêtises, comme quoi potentiellement je pouvais porter malheur. Enfin, c'est la vie. Moi, finalement, je m'en moquais. J'étais en train de faire le dernier pas avant d'atteindre mon rêve. 2 à 3 heures par jour, je descendais dans les villes virtuelles. Si tous ceux qui en rêvent savaient que j'avais une ligne illimitée, et surtout un abonnement illimité, au début, j'en prenais plein la vue. J'ai fait le touriste. Après tout, c'est le meilleur moyen de s'immerger. J'avais choisi une ville. Je me disais, en 3 ans, autant se concentrer tout de suite. J'en avais choisi une au hasard, une grande, en me disant qu'il y avait certainement besoin de plus de policiers à cet endroit qu'ailleurs. Oh, bien sûr, de temps en temps, lassé, mais aussi pour réellement devenir un citoyen. Il me semble d'ailleurs, mais je ne me souviens plus, que c'était indispensable d'en avoir visité au moins 2 ou 3. J'étais passé d'une ville à l'autre. En tout, j'ai fini par en connaître à peu près une quinzaine. Quand je dis connaître, disons que j'étais capable, sur les grands axes, de me repérer, mais bien sûr, celle que j'avais choisie, elle, je finissais par la connaître, sur les bouts des doigts. Les grands axes, mais aussi les petits, en haut, en bas, le multidimensionnel. Ubriel, celle qui allait devenir ma ville. Celle, en fait, qu'il était déjà devenu. Le D-177 était mortel, avec mes 2 imbéciles, qui essayaient d'être le plus loin de moi possible. Or bien sûr, pour les réunions quotidiennes, ils se sentaient obligés de venir. Enfin, de temps en temps, pour des prétextes fallacieux, ça se faisait à distance. Mais la plupart du temps, on se retrouvait. Dans les bunkers, en sous-sol, il n'y avait aucun risque. Mais finalement, j'ai fini par comprendre que c'est ma présence même qui les inquiétait. Alors bon, j'étais sans doute le plus grand solitaire de Los Angeles. C'est peu dire, car déjà, celui qui a la vie sociale la plus riche sur Los Angeles est certainement 1000 fois plus solitaire que le plus solitaire que l'on peut imaginer dans n'importe quelle ville. Donc, Ubriel est réellement devenu ma ville. C'est un peu comme si je vivais là-bas, 3 heures par jour, et que je quittais la ville pour venir au travail le reste du temps. Comme si, quand je dormais, je retournais là-bas. C'était ma motivation, et c'est sans doute cela qui rassurait les responsables. Pour moi, le temps ne s'écoulait pas bêtement. Chaque jour, chaque semaine, j'étais capable de faire la liste des compétences, des connaissances que j'avais acquises. Chaque mois, d'un nouveau quartier d'Ubriel que je connaissais mieux que le mois précédent. Le temps passait, pour moi c'était une suite de victoires, des petits pas vers la citoyenneté, un grand pas vers l'Iamas. Alors, impossible de s'ennuyer, de vouloir retourner ailleurs à un endroit où je n'aurais pas les moyens de me payer ni la ligne, ni l'abonnement. Je faisais mon travail consciencieusement, il n'était pas question que je parte. Et comme prévu, alors que la fin des 3 ans approchait, je voyais allécher la prime que l'on allait me proposer pour remplir les 3 ans. Un grand malade à la compagnie avait lancé un programme qui calculait ce que coûtait en perte à la compagnie le fait de remplacer quelqu'un qui avait de l'expérience par un nouveau. Ça se chiffrait, comme ça avait pu se chiffrer pour moi le temps que j'avais mis au moment du premier incident pour remettre les choses en place, alors que quelqu'un qui aurait été là depuis 1 an ou 2 ans aurait fait beaucoup plus vite. Tout ça se traduisait par du temps, et le temps, c'était de l'argent. Ce programme remettait les chiffres en jeu tous les mois, en fonction des statistiques réelles de ceux qui arrivaient et de ceux qui partaient. Et ces statistiques étaient impitoyables. D'un point de vue des départs et des arrivées, elles variaient peu, et en fonction des incidents, du coup, elles faisaient monter ou descendre les primes. Ainsi, sur un premier contrat de 3 ans, on savait que 7% allaient abandonner avant la fin, malgré ce que ça pouvait leur coûter. Et à la fin des 3 ans, on savait aussi qu'il y aurait entre 12 et 15% qui accepteraient de rempiler. Et sur cela, on savait que 3% n'iraient pas au bout des 6 ans. Oh, pour cela, la compagnie était un petit peu plus généreuse et ça leur coûtait moins cher. En tout cas, la prime qui dépendait de cela et des calculs compliqués qui se faisaient tous les mois pour savoir ce qu'avait coûté un incident trop long par manque d'expérience, tout cela faisait que les primes étaient particulièrement alléchantes et que j'ai presque voulu faire durer le suspense avant de leur dire « Allez, je rempile ». C'était il y a 2 ans. J'étais loin de me douter de la manière dont ça allait se terminer. Le début de la fin, ce fut il y a un peu plus d'un an. Pourtant, la journée avait commencé normalement. J'avais envie de marcher un peu. Je faisais une ronde dans une des urnes. Ça m'arrivait assez souvent. Les deux autres avaient trouvé ça bizarre. Ils laissaient faire les robots. Moi, à force de me promener dans une ville virtuelle, j'avais envie de marcher, pour de vrai. J'avais appris à entendre les robots qui arrivaient et à me pousser pour les laisser passer. J'avais fini par apprécier cette espèce de ville virtuelle faite de gros blocs de containers entassés les uns à côté des autres, avec les grands axes et les petites allées. Exactement comme Ubriel pouvait l'être, mais sur une seule dimension. Ce matin-là, je marchais donc, par hasard. J'avais profité d'un gros transporteur pour m'emmener un peu plus loin que le cœur où j'avais l'habitude de faire mes exercices. Là, nous étions dans une zone qui avait été frappée il y a quelque temps. Comme le principe des premiers robots fourmis, juste au début de l'ère technologique, les robots avaient pris l'habitude d'agréger les containers. Et à partir du moment où une zone, pour une raison ou pour une autre, était vide, ils l'évitaient. Et ainsi, la zone, vide, grossissait de plus en plus, jusqu'à devenir un pan entier complètement désertique de l'entrepôt. J'ai été habitué à ces gigantesques clairières au milieu des forêts de containers, clairières qui, à un moment ou à un autre, pour une raison quelconque, allaient de nouveau se remplir. J'aurais bien voulu discuter de cela, ça aurait pu m'intéresser, la manière dont les intelligences artificielles plaçaient ou déplaçaient les containers, remplissaient les trous, les zones, comme des vagues, des reflux. J'avais noté ça pendant les 4 ans. Des zones qui régulièrement étaient vides, même sans incident, puis qui ensuite se remplissaient. Sans doute des logiques logistiques de trajet de robots. Toujours est-il que ce jour-là, j'étais face à cette clairière, et donc, forcément, comme c'était au milieu, je ne risquais pas de le rater.